le faire tenir.
Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre.
Pour celui-là, ils ont tous la même valeur.
À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même.
Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur.
Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture.
Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu.
Aucun de nous ne vit pour lui-même.
Et aucun ne meurt pour lui-même.
Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur.
En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.
Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ?
Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ?
Car il est écrit :
Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu.
Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres.
Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi.
Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui.
Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas, pour un aliment, causer la perte de celui pour qui le Christ est mort.
Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous.
Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint.
À nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie.
Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes.
Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi.
Ne va pas, pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu.
Tout est pur, c'est vrai.
Mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché.
Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde tes convictions pour ce qui te concerne devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve.
Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi.
Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché.
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction.
Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture,
« Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. »
Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance.
Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres,
conformément à l'enseignement de Jésus-Christ.
Ainsi, d'un même cœur
et d'une seule voix,
vous célébrerez la gloire de Dieu et Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Le sujet de la prédication de ce matin, je l'ai dans le cœur depuis déjà pas mal de temps. Donc ne voyez pas derrière ce que je vais dire ce matin un problème quelconque au sein de l'Église, ce n'est pas le cas. Ne voyez pas non plus un désir d'envoyer des piques à qui que ce soit, ce n'est pas le cas non plus. Il y a 3 ou 4 ans, on a beaucoup parlé de l'accueil dans l'Église. On avait même fait un week-end d'Église consacré à ce sujet, lors duquel nous avons vu l'importance d'un bon accueil au sein de l'Église. Car ce chrétien, les visiteurs qui nous rendent visite de temps en temps, c'est la qualité de l'accueil dans l'Église. Je ne sais plus qui le disait, mais il paraît que c'est dans les 5 premières minutes qu'une personne qui vient pour la première fois dans une Église décide de revenir ou ne plus revenir. Les 5 premières minutes. Je profite d'ailleurs pour remercier ceux d'entre nous qui ont à cœur ce ministère, qui chaque dimanche vont vers nos visiteurs avec un sourire pour les saluer chaleureusement, pour leur souhaiter la bienvenue. Et j'aimerais encourager les uns et les autres, nous tous, à faire de même, à penser aux nouveaux qui arrivent, à penser vers les personnes qu'on ne connaît pas encore bien, pour les saluer, pour leur souhaiter la bienvenue. Mais je dirais ce matin qu'il y a accueil et accueil. Il y a l'accueil des nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église, et il y a, je dirais, l'accueil entre nous. L'accueil entre nous, des personnes de la même Église qui se connaissent, qui se côtoient chaque dimanche ici et dans les réunions de semaine. Comment est-il cet accueil? Comment est-il? Autrement dit, comment sont ou doivent être nos relations entre frères et sœurs de la même Église, nos relations de chrétiens, enfants du Seigneur? La Bible en parle abondamment, et parfois avec des images très fortes, comme par exemple l'image de la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Le passage que nous venons d'entendre ce matin, Romains chapitre 14 et 15, aborde ce sujet et il peut nous aider à comprendre ce que nous devons faire et ne pas faire dans ce domaine face aux différences qui pourraient exister entre nous et qui existent bien sûr entre nous. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de la même Église, à ceux qui peuvent dire les paroles du verset 8, « Nous appartenons au Seigneur ». Donc, si vous pouvez le dire ce matin, le thème vous concerne, le thème nous concerne tous. Voyons d'abord le contexte. Au chapitre 12 et 13, l'apôtre Paul aborde la question de l'amour fraternel dans l'Église, un thème très important dans le Nouveau Testament. L'amour fraternel comme étant l'accomplissement de la loi, de toute la loi. Au chapitre 12, verset 10, il dit « Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. » Au chapitre 13, versets 8 à 10, il dit ceci, « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a rempli toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. C'est écrit dans le texte. Voilà donc ce que l'apôtre Paul dit sur les relations fraternelles dans la communauté, juste avant les chapitres 14 et 15 qui nous intéressent ce matin. Et maintenant, au chapitre 14 et 15, il va aborder la question délicate des différences entre les différences des uns et des autres, n'est-ce pas, dans la communauté. Des divergences d'opinions, de convictions, souvent sur des questions controversées, parce qu'il y a des questions controversées, n'est-ce pas? Différences qui existent et qui ont toujours existé au sein de toutes les églises depuis le début jusqu'aujourd'hui. Et l'église de Rome, comme nous venons de le voir, ne fait pas exception non plus. Rome étant la capitale de l'Empire romain, on peut facilement imaginer le patchwork, le mélange, n'est-ce pas, de gens qui se trouvaient dans la ville et dans l'église. Ce mélange de gens de pays et de cultures différentes qui vivaient dans la même église, qui se côtoyaient à chaque fois qu'il y avait une réunion. On sait qu'il y avait un nombre important de juifs, il y avait une colonie de juifs attirés par le commerce. On sait que le fameux couple du Nouveau Testament, Aquila et Priscille, et d'autres mentionnés notamment dans le chapitre 16 de cette épître, faisaient partie de leur nombre. Il y avait donc à l'église de Rome des chrétiens issus du judaïsme, des judéo-chrétiens, comme on les appelle, des chrétiens venus de Syrie, des chrétiens sortis du paganisme. Bref, l'arrière-plan culturel, religieux, social, familial, etc., etc., des uns et des autres étaient différents, n'étaient pas le même. Dans ces conditions, je dirais que c'était tout à fait normal qu'il y ait des controverses, des discussions, des divergences d'opinions et de convictions au sein de l'Église. Voyons rapidement quelles étaient ces divergences. Les discordes, quand on voit le texte, se situaient surtout au niveau de la nourriture et des jours sacrés. Ce n'était pas une question de cravate ou de costume. Bon, aujourd'hui, j'ai mis ma cravate et mon costume, ce n'était pas ça. Nourriture et jours sacrés. Le verset 2 fait référence à des gens qui mangeaient de tout, alors que d'autres ne mangeaient que des légumes. Le verset 5 mentionne ceux qui considéraient tel jour comme plus sacré que les autres. Il s'agissait sans doute du sabbat, n'est-ce pas ? Du sabbat et les jours spéciaux de fête, hein, parce qu'au sein du peuple d'Israël, les jours de fête étaient des jours religieux, hein, des jours religieux. Alors que d'autres considéraient que tous les jours étaient pareils, tous les jours étaient pareils. Au verset 14 et 15, certains considéraient certains aliments purs et d'autres impurs, alors que d'autres chrétiens considéraient que tous les aliments mangeables sont purs. Allons-y, il n'y a aucun problème pour les manger. Il est aussi question, verset 21, de viande et de vin. Peut-être que ces chrétiens-là, qui avaient des scrupules pour manger de la viande et boire du vin, venaient peut-être de cette secte qui s'appelait les Esséniens, je ne sais pas, mais c'est une supposition, parce qu'on sait qu'à cette époque, les Esséniens s'abstenaient de beaucoup de choses, et aussi de vin et de viande. On sait par ailleurs qu'à l'église de Corinthe, n'est-ce pas, certains chrétiens avaient des scrupules pour manger de la viande achetée sur le marché, parce que ces viandes, au moment d'être abattues, étaient sacrifiées aux idoles. Et il y avait dans cette église, mais aussi à Corinthe et à Colosse, des chrétiens qui avaient la conviction que grâce à la liberté chrétienne, parce qu'en Christ on est libre, n'est-ce pas, grâce à la liberté chrétienne dont ils jouissaient, ils n'étaient plus obligés de suivre ces vieilles lois et tabous concernant la nourriture et les jours sacrés, ces lois qui venaient de l'Ancien Testament. Et la question... Pour eux, la question sur les animaux purs et impurs et la question des viandes sacrées, consacrées aux idoles, sacrifiées aux idoles, ne les concernait plus. Et en tout cas, ils ne se sentaient pas du tout concernés par ces choses-là. Ils ne se sentaient pas concernés par ces règles qui venaient d'une autre époque, de l'Ancien Testament. Pour eux, le christianisme n'avait plus rien à voir avec ces choses, ni avec l'observation du sabbat. Et puis, de l'autre côté, il y avait des chrétiens qui croyaient exactement le contraire. Des chrétiens qui considèrent qu'ils devaient être végétariens, qu'ils devaient observer un jour spécial dans la semaine, sans oublier les jours spéciaux. Au fond de leur cœur, ils étaient encore très attachés à la loi, ils étaient encore légalistes, et voyaient toujours le christianisme comme une série de règles et de préceptes à suivre rigoureusement. Ils craignaient la liberté chrétienne. Ils pensaient davantage en termes de devoir envers Dieu, en termes de ce que je dois faire pour plaire à Dieu, au lieu de penser à ce que Dieu avait fait pour eux. Et ils mettaient leur conscience donc à refuser beaucoup de choses. Le risque était évident, n'est-ce pas ? Divergence de vue, controverse, division et oubli du commandement des commandements, n'est-ce pas, l'amour fraternel, l'amour du prochain. Voilà donc ce qui oblige l'apôtre Paul à traiter cette question des relations réciproques entre chrétiens dans la même église. On voit qu'il est obligé d'instruire aussi, profiter de l'occasion pour instruire les chrétiens sur ces questions de pureté et d'impureté, de jours sacrés, pas sacrés. Il leur dit que rien n'est impur en soi, que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le manger et le boire, mais avec la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, verset 17. Et il exhorte les autres chrétiens, à la patience, à l'accueil des faibles. Je pense que l'apôtre Paul emploie l'épithète faible qui était employée par les chrétiens. Il le reprend. À ne pas mépriser, ne pas juger, ne pas devenir une pierre d'achoppement pour leurs frères, à marcher selon l'amour, à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors je me suis posé la question, quelles sont les divergences qui existent aujourd'hui dans nos églises? Quelles sont les divergences qui existent aujourd'hui dans nos églises? Ces divergences mentionnées dans le texte n'existent plus, si? Cela dépend peut-être. Quand j'étais au Cameroun, j'ai dû faire face à un problème un jour dans le campus des étudiants de l'école biblique. J'étais prof dans cette école biblique et j'arrive un lundi matin et j'ai vu qu'il y avait une tension palpable parmi les élèves en classe. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ceci était originaire de différentes tribus parce que le Cameroun est un pays où il y a beaucoup de tribus qui vivent ensemble. Et ces étudiants de différentes tribus vivaient ensemble sur le campus pendant la période scolaire. Or, un beau jour, certains élèves avaient décidé d'acheter une tortue géante pour la manger. Et je dois vous dire que c'est une bonne viande, puisque je l'ai goûtée. Je n'ai pas goûté celle-là, ce jour-là, mais je l'ai goûtée à d'autres occasions. Et ils l'ont fait alors que pour d'autres élèves, la tortue était un animal totem. Il ne fallait surtout pas la tuer, surtout pas la manger. Alors, scandalisés, ceux-ci n'adressaient plus la parole aux autres. Ils avaient même coupé les relations, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient fait quelque chose de grave à leurs yeux. Alors, bien sûr, j'ai profité pour étudier ce passage de l'Écriture avec les élèves, plus d'autres passages de la première lettre aux Corinthiens et de la lettre aux Colossiens. Et je leur ai dit de faire ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de faire, de s'accepter mutuellement, de respecter les différences, d'accepter que d'autres aient d'autres principes que les nôtres, de les accueillir malgré la différence qui puisse exister. Alors je me dis qu'avec la mondialisation, n'est-ce pas, qui fait des pas de géant, malgré parfois les agitations dans notre pays, nos églises sont de plus en plus composées de chrétiens originaires de peuples et de cultures différentes. Et même si de nos jours les différences entre nous diffèrent probablement de celles qui sont mentionnées dans le texte, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des différences entre nous. Il y a des différences entre nous. Ces chrétiens qui se retrouvent au sein de la même église avec des cultures différentes, etc., avec des arrière-plans différents, sont différents nécessairement les uns des autres. Il y a des points de vue différents, il y a des sensibilités différentes, des expériences spirituelles différentes, des manières différentes de louer le Seigneur, des traditions religieuses différentes, car il faut dire nos églises ont toutes leurs traditions, n'est-ce pas? Bref, des manières différentes de vivre leur fidélité au Seigneur. Car on le sait bien, la compréhension que nous avons des choses, et parfois même de l'Évangile, n'est-ce pas, dépend aussi du milieu dans lequel nous avons vécu, où nous vivons. On lit souvent l'Évangile et la Bible avec des lunettes de notre propre culture, des lunettes du milieu religieux dans lequel nous avons été éduqués, formés, façonnés. Et c'est vrai aussi par rapport à nous, chrétiens évangéliques, n'est-ce pas? Notre première église joue souvent un rôle essentiel dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai vu des chrétiens déménager pour des raisons professionnelles? Ils doivent quitter leur première église et ils ont du mal à trouver une autre église qui leur convienne parce qu'ils ne trouveront jamais une église qui soit tout à fait identique à la première. Je connais un couple ici à 100 mètres de notre église qui ne va nulle part parce qu'ils n'ont pas encore, ils sont là depuis des années, ils n'ont pas encore trouvé une église qui ressemble à leur église première, à leur église d'origine. Nous avons des passés différents les uns des autres. Et nous sommes le produit de notre passé, de notre milieu, de notre environnement familial, culturel et religieux. L'éducation que nous avons reçue à la maison et à l'école ont formé, pour ne pas dire formaté, n'est-ce pas, notre caractère et notre manière d'être. L'influence reçue de telle ou telle personne ou de telle église a façonné notre manière de voir les choses et parfois même notre manière de voir l'Évangile. Nous avons en plus des tempéraments différents, n'est-ce pas? Il y a les extravertis et les autres qui sont introvertis. Ou selon Hippocrate, il y a les mélancoliques, les colériques, les sanguins et les flegmatiques, n'est-ce pas? Et tout cela dans la même église. Tout cela dans la même église. Nous avons vraiment un cocktail, n'est-ce pas, tout fait pour l'explosion, n'est-ce pas? Pour l'explosion. Heureusement que l'Évangile est là. Et l'Évangile est là pour transformer nos conceptions, pour transformer nos cultures, pour influencer notre existence, pour nous transformer, et pour nous dire que l'amour fraternel est fondamental au sein d'une communauté. L'amour du prochain, l'amour fraternel, l'accueil de celui qui est différent est plus important que tout le reste. Donc ce passage est finalement d'une grande actualité, même s'il parle de choses de l'époque, n'est-ce pas, qui peut-être ne nous concernent pas tout à fait aujourd'hui. Le principe est là et il est valable pour toutes les églises de tous les temps et pour nous aujourd'hui. Et dans notre église baptiste ici de Clermont-Ferrand, quelles sont les différences notoires qui doivent nous pousser à être vigilants? Je ne sais pas si vous réfléchissez de temps en temps aux différences qui existent parmi nous. Je suis là depuis 5 ans, je commence à connaître un petit peu l'Église. Je me connais aussi assez bien, je pense, et mes difficultés, parce que je suis dans le même bateau que vous tous. Mais quelles sont nos différences? Sans doute celles déjà mentionnées, car dans notre Église, on a déjà compté plus d'une quinzaine de nationalités, n'est-ce pas? Certains d'entre nous viennent d'églises évangéliques ou autres tout à fait différentes de la nôtre. Certes, nous avons une confession de foi qui limite déjà un petit peu les dégâts au niveau de la doctrine, n'est-ce pas? Parce qu'on demande à ceux qui adhèrent à notre Église d'être d'accord avec cette confession de foi. Et donc, en matière de doctrine, ça limite déjà les controverses. Certaines, pas toutes. Mais le sujet étant très vaste, il y a peut-être encore d'autres différences auxquelles nous ne sommes pas toujours attentifs. Et des différences qui parfois peuvent causer des tensions si nous ne sommes pas vigilants. Alors permettez-moi d'avancer quelques-unes. Je vais peut-être être un peu schématique, un peu trop schématique, mais je pense qu'on peut, dire ce que je vais dire et chacun peut se retrouver là-dedans avec quelques nuances. Notre Église est formée par pas mal de personnes jeunes encore. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge, je n'ai pas calculé, mais 30, 40 ans peut-être. D'ailleurs, je crois que les personnes âgées ont du mal à se sentir bien avec nous et nous devons être attentifs aussi. Pourquoi il n'y a pas plus de personnes âgées parmi nous? Nous devons nous poser cette question. Des personnes jeunes encore, oui, qui ont un niveau universitaire assez intéressant, n'est-ce pas, certains d'entre nous ont fini leurs études universitaires, donc le niveau académique est très élevé. Des personnes qui se plaisent dans le monde des idées, des recherches fouillées, des détails bien examinés, de l'organisation, je dirais même du perfectionnisme pour certains d'entre nous. Je ne suis pas en train d'envoyer des pics, hein. Ne pensez pas. Même si quelqu'un peut penser, je me retrouve là-dedans aussi, hein, mais peut-être pas dans cette phase-là, un peu plus loin. Des personnes qui ont un esprit cartésien, on est en France, n'est-ce pas? Ils affrontent les situations avec la raison. Il faut réfléchir à tout ça. Et allez, on fonce, on réfléchit. Et là, je fais appel au docteur Hans Vier, qui est médecin, qui est anthropologue, qui est plutôt missiologue et qui a été missionnaire pendant des années et qui forme les missionnaires. Et c'est lui aussi qui parle de ces choses et qui dit, mais il y a des gens qui ont une conscience axée sur les règles. Conscience axée sur les règles, sur l'organisation, sur le travail fait de manière parfaite. Ils ont souvent du mal à accepter ceux qui sortent un petit peu du cadre établi. Mais elle compte aussi, notre Église, donc, en son sein, d'autres personnes qui sont plutôt de type sentimental, tendre, chaleureuse, ça ne veut pas dire que les autres ne le soient pas, mais la tendance c'est ça, n'est-ce pas? Qu'une conscience davantage axée sur les relations que sur l'organisation et les règles, qui aiment la spontanéité et qui sortent souvent du cadre établi. Dans notre Église, on le voit parfois, n'est-ce pas? Si les uns cherchent ce qui est parfait et juste, les autres cherchent plutôt l'harmonie et le bien-être relationnel. C'est ce qui compte avant tout pour eux. Si les uns montrent une certaine indépendance individuelle, capable de réfléchir par eux-mêmes, ils cherchent avant tout, et cherchent avant tout l'efficacité, les autres montrent davantage leur dépendance du groupe. Et l'harmonie et le relationnel passent souvent avant l'efficacité et la réflexion. Si les uns ont une communication directe et parfois frontale, pour ne pas dire brutale, les autres utilisent souvent une communication indirecte, car ils cherchent avant tout l'amitié, le bien-être, la patience, la serviabilité. Ils ne veulent pas, surtout pas, faire quelque chose qui puisse blesser. Si les uns trouvent la sécurité à travers le sentiment d'être juste par rapport aux normes, aux règles, aux objectifs, les autres trouvent la sécurité plutôt dans les multiples relations avec les uns et les autres et dans le sentiment d'appartenir à un groupe où ils se sentent bien. Si les uns ont une conception quantitative du temps, si pour eux la programmation du temps détermine la vie, pour citer l'un de nos prédicateurs, s'ils ont l'esprit de la pendule, n'est-ce pas? Pour les autres, ce sont plutôt les événements qui déterminent la vie, car ils ont une conception plutôt qualitative du temps, une conception qualitative du temps. Si pour les uns l'accomplissement d'une tâche est souvent plus important que les relations, pour les autres, les relations sont plus importantes que l'accomplissement d'une tâche. Si les uns se plaisent souvent dans la solitude, les autres fuient la solitude et sacrifient des objectifs personnels au profit justement des relations. Si les uns ont une pensée analytique, logique, parfois même abstraite, n'est-ce pas? Les autres ont une pensée synthétique, des jugements ouverts selon les circonstances et les moments. Si les uns apprennent par explication, les autres apprennent surtout par imitation. Si les uns ont une vertu critique facile, si pour eux la véracité est plus importante que l'harmonie dans les relations, pour les autres, les critiques reçues font souvent mal. Elles sont considérées comme des attaques. L'harmonie dans les relations est pour eux beaucoup plus importante que la véracité. Si pour les uns, il faut toujours dire oui ou non, pour d'autres, un oui peut parfois signifier non. Si pour les uns, il faut toujours dire la vérité, même si elle blesse, pour les autres, il n'est pas toujours nécessaire de dire la vérité, surtout si elle blesse. Si pour les uns, le conflit est normal dans les relations, pour les autres, il faut toujours éviter le conflit dans les relations. Si les uns portent une attention particulière à la solution et à l'action, pour les autres, l'attention doit être surtout portée à la relation amicale et à la confiance. On pourrait peut-être continuer cette liste, mais je m'arrête là. Comme je disais tout à l'heure, même si je schématise un peu, si je caricature peut-être un petit peu, ce qui est sûr, c'est que ces différences existent même parmi nous dans notre Église. Alors, je me suis posé la question, que faire pour vivre en communion les uns avec les autres, malgré nos différences? Comment faire pour vivre de manière à ce que les uns ne dominent pas sur les autres, mais qu'il y ait un équilibre entre toutes ces choses? Comment avoir des relations saines entre nous, des relations qui vivifient malgré ces différences? Prendre en compte les différences de l'autre. Prendre en compte ces différences et faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire ce matin, accueillir celui qui est différent de moi. Accueillir celui qui est différent de moi. Faire des pas les uns vers les autres pour essayer de comprendre sur quel registre ils se trouvent, sur le registre de la raison ou sur le registre de la relation, n'est-ce pas? Ça vaut la peine de le faire pour que la communion soit forte au sein de notre Église. Et elle est déjà, mais examinons ces choses pour avancer ensemble. Alors je vois que le temps passe vite, mais ça vaut la peine de terminer par le texte biblique et de voir très rapidement ces trois verbes que l'apôtre Paul mentionne dans ce passage. D'abord au verset 10, « ne pas juger », c'est-à-dire « ne pas condamner l'autre ». Au verset 1, il dit de ne pas discuter les opinions, de ne pas critiquer les scrupules. Il y a parfois des discussions qui n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas? Aucun intérêt, c'est de la polémique, il faut les abandonner tout simplement. Il faut les abandonner. Ne pas faire de nos divergences d'idées un sujet de conflit, de discorde. Il parle bien sûr de certains préjugés d'importance secondaire. Au verset 10 et 12, il dit que juger notre frère n'est pas notre affaire, c'est celle de son maître. Celle de son maître, c'est l'affaire du seul juge, n'est-ce pas, qui est parfait, équitable et infaillible. Lui, il connaît toutes choses et toutes circonstances. Le deuxième verbe, c'est le verbe mépriser, versets 3 et 10. Souvent, lorsqu'on commence à critiquer et à juger et à condamner notre frère, n'est-ce pas, on finit souvent, très souvent même, par le mépriser. Et je pense que ces verbes que l'apôtre Paul utilise montrent où se situe finalement le problème. Le problème ne se situe pas chez l'autre, mais chez moi. Le problème se situe chez nous. Il est en moi. Quand on commence à juger, à condamner les autres, il y a là une sorte de mécanisme de défense, n'est-ce pas? Je suis en train de me protéger. J'attire l'attention sur la faute de l'autre et je suis en train de me protéger, n'est-ce pas, parce que j'ai aussi mes problèmes, mes difficultés, et je préfère qu'on regarde les fautes de l'autre que les miennes. On détourne l'attention des autres sur quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous me direz, c'est peut-être inconscient, mais nous devons prendre conscience de nos inconsciences, n'est-ce pas, pour savoir réagir comme la parole de Dieu nous dit de réagir. Nous sommes exhortés à ne pas juger, à ne pas condamner, à ne pas mépriser. Et puis le troisième verbe, pour terminer, très important, ce n'est pas le verbe tolérer, mais accueillir, accueillir l'autre. Le devoir d'accueillir l'autre tel qu'il est, au lieu de le condamner et de le mépriser. Et l'apôtre Paul nous dit que le modèle de l'accueil, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous a accueillis. Le modèle, c'est Jésus-Christ. La manière d'accueillir comme le Christ nous a accueillis, chacun de nous. L'objectif de cet accueil, dit l'apôtre Paul, c'est la gloire de Dieu. Cela veut dire que le plus important, ce n'est pas ma liberté individuelle, personnelle, mon opinion, ma conviction, mais l'amour, l'amour fraternel. Accueillir l'autre avec amour et patience dans une atmosphère d'harmonie, de dialogue aussi, bien sûr, parce que le dialogue est important, de louange et d'étude de la parole de Dieu. Mais, comme disait quelqu'un, avoir raison sans amour, c'est déjà avoir tort. Avoir raison sans amour, c'est déjà avoir tort. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.